Ce chêne, il est magnifique. Et c'est vrai que embrasser un arbre, hein, ceux qui nous écoutent, c'est vrai, il faut se planquer parce qu'on vous prendra pour un fou.
Non, non, c'est pas grave.
Mais vous embrassez un arbre, et vous restez comme ça, vous détendez.
CO2, mon amour.
Bon, d'abord, ça vibre parce qu'il y a des vibrations avec le vent, les trucs comme ça, et vous sentez un truc qui est vivant. Vous êtes traversé par l'énergie de l'arbre. Moi, je trouve que ça coûte pas cher, c'est pas compliqué, il n'y a pas à réfléchir.
Denis Chessou.
Vous embrassez un arbre. Et vous allez sentir tout d'un coup tout ce que la nature peut vous apporter. Ça vous est traversé, le corps est traversé par cette énergie.
Ah, ça fait du bien. C'est Jean-Louis Etienne que l'on va retrouver tout au long de cette émission dans le département du Tarn, avec son amour de la nature, avec son amour des arbres. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans cette dernière émission donc de l'année, CO2 de mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui Élise Christophe à la technique et assistée de Lorraine Besse, c'est Marion Lelay, oui, qui réalise l'émission. Allez, tournez la page d'une année sur la Terre. Roulez jeunesse de l'Inde, d'Afrique, d'Asie. Roulez vieillesse en Europe, en Chine, au Japon, en Russie. Je suis un bel endroit, perdu dans l'univers. Dans les guides bleus, dans les guides verts, on vante ma beauté en vert et bleu. On devrait m'appeler la mer. On m'a nommé la Terre. Et il y a tout pour y habiter, pour s'aimer, pour semer, récolter, tisser des liens. Il y a tout. Je suis à la bonne distance du soleil, et ni trop froid, ni trop chaud, sauf quand vous déréglez mon climat et mon atmosphère. Ah, vous avez beau chercher avec vos télescopes, il n'y en a pas deux comme moi pour vous abriter. Vous avez de la terre, de l'eau, des végétaux, des pierres, un ciel, des animaux. Et dans ces animaux, il y a nous, oui, des gentils et des fous. Je suis vraiment bonne patte, hein, quand même, ce que je suis d'ailleurs à l'origine, mais comment puis-je encore vous supporter avec 200 000 ans d'enfantillage, vos balbutiements de nouveau-nés? Vous me faites des enfants sur et dans le dos, vous me perforez la couenne, me faites éternuer, acidifier mes os, avec vos neurones mal agencés, vous écrivez un drôle de drame. Même si d'ailleurs vous m'avez de temps en temps amélioré. Mais qui vous accablez votre accablant cerveau? L'homme est fou, il adore un dieu invisible et détruit la nature qui, elle, est visible. La nature qu'il détruit est le dieu qu'il vénère. Ça, c'est un joli résumé du Béryl. Mais quand allez-vous comprendre que j'ai des limites? Vous non, manifestement non jamais, mais moi, ben oui, enfin si, vous avez en fait mes miennes de limites. Ah ben oui, je suis une terre finie. Mais attention, hein, vous êtes géniaux, mais simplement pas complètement fini d'être cuit. Un jour, vous grandirez. Rassurez-vous, c'est normal, ça a toujours été très long l'évolution. Mais nous ne pourrons pas semer de graines les poings fermés. Les paysans nous l'apprennent. Pour semer, tu dois ouvrir les mains. La croix de Saint-André est blanche sous la neige. Ce soir, c'est la trêve. Des baisers mondialisés feront le tour de la Terre dans un filet cuivré en 3 ou 4G. De Rio à Oslo, de Canberra à Toulouse, moi je tourne autour du Soleil depuis 4 milliards d'années. Et vous, après quoi vous courez? Allez, tournez, valsez, tournez la page d'une année sur la Terre, le mode d'emploi de la vie apaisée. Eh oui, vous allez le trouver. Chiche, on débute en 2017. Belle année à tous et plus encore aux enfants qui vont créer, inventer et tourner sur les chevaux du manège, en fait, du manège en chantier. Au menu de cette émission, eh bien donc on va retrouver Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, je vous l'ai dit, donc dans ce département du Tarn. Mais auparavant, on va quand même s'offrir une petite actualité. Bonjour, cher Frédéric Denré.
Bonjour, Denis Chessou.
Vous allez bien? Tout va bien?
Oui, ça va. Je vais ouvrir des huîtres. On est le 31 décembre.
C'est voilà. Ça, donc vous ne vous blessez pas. Le citron, tout va bien pour mettre dans l'œil des huîtres. Et alors, dites donc, quand même, dans notre actualité, 25 millions de téléphones portables sont mis sur le marché chaque année. 7 au moment de Noël, il y a eu 3 millions de portables dans la hotte du Père Noël. On rappelle simplement que c'est un petit micro-ondes, quand même, le portable.
Bah oui, c'est un petit micro-ondes. Alors certes, à une puissance extrêmement faible, mais ce sont les lois de la physique, mon cher Denis, de l'électromagnétique. Cette puissance augmente avec le carré de la distance, c'est-à-dire que plus vous rapprochez le téléphone de la peau, plus la puissance qui traverse votre cerveau ou votre corps augmente. Alors même qu'il suffit de l'éloigner un tout petit peu pour diviser cette puissance. Et puis plus vous êtes en mouvement, plus la puissance qui vous traverse est importante, parce que là, votre téléphone, vous l'obligez à, comment dirais-je, augmenter sa puissance pour capter les antennes relais. Voilà, donc voilà, le téléphone à l'oreille en plein TGV, ça n'a jamais été bon pour la santé, mon cher.
Non. Donc, des soupçons sur les ondes des téléphones portables, hein, Pierre Lehir nous l'a rappelé dans Le Monde, avec quand même des niveaux d'exposition annoncés par les fabricants, mais qui sont dépassés en conditions réelles d'utilisation.
Toujours pareil, Denis, hein, c'est comme avec notre affaire du diesel, il y a une réglementation qui est basée sur, sur un mannequin, une distance, sur un temps d'exposition, et puis il y a la réalité de l'usage. Et la réalité de l'usage, c'est quoi? C'est regarder, regardons-nous, hein, le portable, on l'a dans les poches près des testicules, là, il faudrait surtout pas que le téléphone soit, dans la petite poche de la chemise près du cœur, et puis,
rappeler qu'en fait, le cœur, c'est un organe électrique naturel. Hein.
Mais oui, le cœur est un organe électrique, le corps c'est de l'eau salée, hein, c'est 70% d'eau salée, donc c'est plein d'ions, calcium, potassium, et tout ça traversé par un champ électromagnétique crée des petits courants qui peuvent modifier le fonctionnement des cellules, tout ça on le sait. Par contre, ce qu'on a oublié, c'est le bon sens. Et le bon sens, consisterait à ne pas rapprocher, à ne pas coller à la peau le téléphone portable, ni à l'oreille, ni près des testicules, parce qu'on connaît l'effet que cela peut avoir sur les testicules, ni près du cœur. Donc ça devrait pousser à travailler au téléphone portable, à utiliser le téléphone portable avec des oreillettes, si tant est évidemment que le téléphone n'est pas dans la poche, on en revient toujours même. Oui. Et puis surtout, Denis, mais je ne vous apprends rien.
Les enfants,
c'est impensable de confier des téléphones portables à des enfants.
Il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus. Les enfants n'ont pas terminé leur croissance. Les mécanismes de défense des enfants ne sont pas encore bien formés. La question du poids est importante parce que elle démultiplie en fait les effets des ondes électromagnétiques. Donc c'est impensable de confier un téléphone portable à un enfant. Est-ce qu'on ferait fumer un enfant au bar de l'alcool? Non. Alors pourquoi leur confier des téléphones portables?
Merci, cher Frédéric Danhé. Et puis donc à très bientôt en 2017.
À bientôt. Au revoir.
Mon corps, mon amour, voici Olivier Ruiz. Oui, les deux en même temps, si.
Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains. Alors parcours, mon corps se griffe, mon amour. Sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo, plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je
CO2 Mon Amour sur France Inter.
C'est le moment. Allez, on respire, on va dans le sud de la France, on va dans le Tarn.
La balade de Denis Chessou.
Joli chemin qui monte au sommet de la colline, entre un peu de châtaignier, entre un peu de chêne. Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour Denis.
On est chez vous dans ce département du Tarn qui est votre département natal. Et cette Devèze où nous sommes, qu'est-ce que c'est d'abord une Devèze ?
Une petite colline. Et cette colline, effectivement, elle est l'illustration de la position géographique du Tarn.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on trouve à la fois à l'est des essences méditerranéennes et à 100 mètres plus à l'ouest des influences atlantiques. C'est un lieu de synthèse entre ces deux influences qu'on retrouve aussi dans le tempérament des gens.
C'est quelqu'un qui peut être conciliant, voire conciliateur.
On a eu des grands hommes comme Jaurès, par exemple, qui est né là, effectivement, qui était un grand conciliateur. On le retrouve chez les gens, et on le retrouve dans leur façon d'être. Les jours de Vendôtan, il y a de l'énervement, il y a davantage d'accouchements, il y a aussi des infarctus plus fréquents. On voyait bien ça, l'influence de Vendôtan, ça c'est ce vent de la Méditerranée qui est excitant, qui est chaud. Et puis le vent apaisant de l'ouest, de l'Atlantique, qui nous amène la pluie. Donc c'est un département de synthèse.
C'est un coin vraiment qui est très joli du sud du département du Tarn. On est entre Castres et Lavaur, pour être précis. Donc alors, vous avez l'ail rose de Lautrec qui n'est pas loin. Vous avez le Lauragais, le pays de Cocagne. Mais oui, ça vient de là, la terre de pastel avec la Couca qui fit la richesse de Toulouse et aussi des environs. Donc c'est un département qui est assez agricole avec la vallée de la Goutte et donc au-dessus la Devèze de Jean-Louis Etienne. Et cet homme a vraiment besoin de ce lieu. C'est un homme, on le sait, du pôle Nord, qu'il a gagné donc à pied en 1986, et puis aussi du pôle Sud. Donc il aime bien l'Arctique, on va dire, fondante, et l'Antarctique plus résistante, car c'est un continent. C'est donc un homme des deux pôles, donc c'est un vrai bipolaire. Voilà, c'est ça la définition. Respiration intime dans ce Tarn, donc avec un homme qui est à la fois médecin, explorateur, auteur aussi, son dernier ouvrage s'appelle « Inventer sa vie » aux éditions du Passeur, bricoleur et aussi monteur d'expédition qui doit toujours vivre avec un petit rêve d'avance.
D'ici, on voit les Pyrénées. Les Pyrénées, donc, en hiver, ou d'une manière générale, quand on voit les Pyrénées, je dis en hiver parce qu'on les voit bien quand elles sont bien enneigées, c'est signe que le vent de la Méditerranée va arriver dans 48 heures. Et c'est un paysage absolument extraordinaire. Donc j'aime beaucoup ce lieu, c'est un lieu... D'abord je suis né en bas, dans le village tout en bas. J'ai grandi là, et j'ai été médecin aussi là. J'ai remplacé dans les villages. Et je me souviens que mes premières visites de médecin, c'était... Alors je t'appelle Jean-Louis ou je te dis docteur. Donc c'était cette relation-là. Je me suis construit ici. J'ai fait mes fondations de voyageurs ici, certainement.
Et puis aussi les fondations du manuel que vous êtes. C'est-à-dire que là, on voit des cabanes que vous avez construites. Puis vous avez toujours aimé ce rapport donc à la main.
Ouais.
Et même dans le jardin de Vielmur, dans la cabane là, qui était au fond du jardin, il y avait des outils, puis vous bricoliez, quoi.
Oui, j'ai toujours été fasciné par les outils. À l'école primaire, tous les samedis, il y avait le marché. Et au même emplacement, il y avait un étalage d'outillage. Je m'arrêtais là. J'aimais les devantures des quincailleries. J'ai fait beaucoup de bricolage petit, des choses que j'ai commencé, que je n'ai pas fini. Je bricolais beaucoup. J'ai découvert la mécanique avec la vieille mobilette de mon père, que j'ai démontée, remontée 100 fois. Et le travail manuel, en fait, c'est quelque chose qui est apaisant. C'est constructif, le travail manuel. Parce qu'on commence avec des planches et on termine avec une cabane que l'on voit. Mmh. On commence, on démonte un moteur, on remet quelques pièces neuves, on les change et le moteur redémarre. Et en fait, un exercice de ces 10 doigts bien fait, c'est le reflet d'une pensée bien ordonnée. Moi, j'étais à l'école primaire. À l'école primaire, je sais maintenant que j'étais extrêmement dyslexique. Sur les cahiers, c'est l'orthographe est dramatique, sans parler de la lecture, qui est une catastrophe. Enfin, c'était ça. Et donc, après le CM2, qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, collège technique. CAP, tournoi fraiseur, et puis après j'ai fait autre chose. Mais
oui, mais là c'est intéressant, parce que vous avez quand même fait autre chose aussi après. Vous êtes quand même devenu tout libre.
Oui. Mais la possibilité du bac m'a effectivement donné l'envie de faire médecine.
Alors après, vous êtes devenu toujours manuel, parce que lorsque vous étiez chirurgien, bah, vous faisiez un peu de menuiserie, un peu de plomberie. Hein,
c'était ça aussi. Ah oui. Mais non, mais j'étais tellement heureux en chirurgie. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé en médecine le geste manuel. Ah oui. Et en plus, dans une spécialité sur laquelle je m'orientais, qui est l'orthopédie. L'orthopédie, c'est l'os, donc c'est la, on est de nouveau dans la matière, dans le dur. Et là, on place des vis, des broches, des... On fait, c'est un vrai travail.
Une menuiserie.
C'est une menuiserie, donc il y en a intérêt à être bon bricoleur.
Alors Jean-Louis, on chemine sur cette Devèze, qui doit être pâturée hein, quand même aussi une période. On imagine bien qu'il y avait quand même beaucoup plus de moutons ici. Mais qu'est-ce que vous apporte le Tarn d'un point de vue nature? Est-ce que vous avez besoin, vous, d'être là?
Alors, j'ai eu une révélation après le pôle Nord. 63 jours de disette sans voir... un peu d'herbe, quelque chose, une couleur verte, autre chose que de la glace. Je suis revenu directement du Canada, à Paris, et je suis revenu ici. Et là, tout d'un coup, c'était au mois de mai. Et donc, cette nature a explosé. Et c'est la même que j'avais connue dans mon enfance. Elle a explosé. Tout d'un coup, j'avais besoin de me rouler dans l'herbe. J'ai regardé tout ça avec émerveillement. J'ai eu ce coup de foudre-là. Et tout d'un coup, on regarde plus les choses de la même façon. Quand vous êtes sur un terrain comme la banquise, qui est un terrain stérile, il n'y a rien, vous avez beau gratter, creuser, oui. Et tout d'un coup vous êtes sur quelque chose qui vit. Là, sous nos pieds, il y a plein d'insectes, de fourmis qui sont partis, d'araignées, et tout d'un coup, ça, c'est devenu quelque chose où je me suis rendu compte qu'on faisait partie de cette mutuelle, en fait. La nature, c'est une mutuelle où toutes les espèces ont la vie en commun, et dans la nature, même on donne de sa vie, dans ses habitudes de vie, et on donne de son corps, on est mangé, ou on mange, puis on est mangé, puis on meurt. Et il y a la transformation totale de son corps en matière minérale qui vont revenir par la photosynthèse dans la matière organique. C'est ça le grand cycle de la nature, quoi, et c'est ce qu'on est en train de perdre. Et donc ce Tarn m'a apporté cette révélation. Oh, tout ça, mais tout ça, et j'avais l'impression d'être dans une... C'est tout était vivant autour, quoi.
Je sais que vous avez un besoin de prendre aussi de l'énergie des arbres.
Oui.
Et alors peut-être davantage plutôt les platanes, une fois que vous m'aviez dit ça.
Oui.
Alors là, ici, on n'en a pas, hein. On est plutôt...
Il est beau ce chêne-là.
Ah, qu'il est beau celui-là. Enfin,
wow. Alors voyez, on est sur un coteau où la terre est assez sèche quand même.
Ah, oui. Hein.
Mais donc c'est traversé certainement par de l'eau qui circule. Et donc une fois, je voulais faire un puits, j'ai fait venir un sourcier. Et donc, on s'est promené avec lui, et donc avec ça.
Le voyait, gars de Coudrier.
Ben, oui, on voyait ça se relever. Il me dit, oui. Puis au bout d'un moment, il me dit, c'est pas sorcier. Il me dit, regardez, là où ça se dresse, il me dit, c'est là où vous avez des gros arbres. Ouais. C'est qu'il y a de l'eau dessous, il y a à manger, mais il y a aussi de l'eau. Ouais. Donc, si vous voulez trouver les endroits où il y a de l'eau, regardez les gros arbres. Donc, ce chêne, il est magnifique. Et c'est vrai que embrasser un arbre, ceux qui nous écoutent, c'est vrai. Il faut se planquer parce qu'on vous prendra pour un fou.
Non, c'est pas grave.
Mais vous embrassez un arbre et vous restez comme ça, vous vous détendez. Bon, d'abord, ça vibre parce qu'il y a des vibrations avec le vent, les trucs comme ça. Et vous sentez un truc qui est vivant. Vous êtes traversé par l'énergie de l'arbre. Moi, je trouve que ça coûte pas cher. C'est pas compliqué. Il n'y a pas à réfléchir. Mmh. Vous embrassez un arbre et vous allez sentir tout d'un coup tout ce que la nature peut vous apporter. Quoi. Ça vous est traversé, le corps est traversé par cette énergie. Régulièrement, quand je suis parti, souvent d'ici, je me dis au revoir à mes parents, je partais de la gare de Vielmur, et j'allais tout le temps dans le secteur, dans le coin, faire des photos, mais des photos sans appareil, quoi, des images que je prenais. Et donc j'ai des images qui sont toujours les mêmes en tête. J'ai des images comme ça de vent d'automne sur un champ de blé, des choses. Et ça, c'est des jokers, c'est des choses que je me sers quand je suis en difficulté, quand je suis pas bien. Je me resserre ces images de nature. C'est une sorte de réinitialisation. Repartir sur quelque chose. Donc la racine est quelque chose qui est constructif.
Alors justement, faites bien une différence entre avoir des racines et donc ne pas être dans l'enracinement.
Oui, et donc, parce qu'on flatte les racines, et c'est vrai, quelqu'un qui trahit ses racines, c'est dramatique, enfin, vous voyez, c'est un... Bon, et donc j'ai trouvé la formule, j'ai dit, écoute, racine, oui, parce que je sais ce que c'est, et ça me nourrit, je suis de là, mais enracinement, non, il fallait voir ailleurs. Et au contraire, ailleurs, tout d'un coup, on est... on a ce socle, c'est un socle la racine. Exactement comme la nation. La nation, on dit qu'on est à l'extérieur. Bon, en France, on est français, mais on s'en rend pas compte. À l'extérieur, déjà le langage des autres, le décor, fait que on est français. Et donc il y a tout d'un coup cette conscience effectivement de la racine qui se fait quand on est ailleurs. C'est une force.
C'est pas mal quand même ce petit bout d'été qui a été tourné, donc c'était fin juillet donc chez Jean-Louis Etienne. Voilà, en ce jour de 31 décembre, tranquillement, on va poursuivre la balade d'abord en musique et puis on va retrouver Jean-Louis Etienne. Qu'est-ce que c'est bien, c'était Calypso Rose sur France Inter, Leave Me Alone, vive Trinidad, d'ailleurs de Trinidad jusqu'au département du Tarn, il y a quoi, il y a 4-5 kilomètres d'écart, me semble-t-il. Alors on va retrouver bien sûr Jean-Louis Etienne avec cet homme, je vous le disais, qui a toujours un rêve d'avance et aussi une expédition d'avance.
Et la prochaine, bah, ça va être dans l'océan Austral. Alors l'océan Austral, si vous voulez, c'est celui qui est tout au sud, qui n'est pas limité par les continents comme tous les océans du monde. C'est un océan qui est en mouvement, hein, qui circule d'ouest en est autour de l'Antarctique. Donc on appelle ça le courant circumpolaire antarctique. Ouais, bah ouais, ça jette là tout de suite. Et en fait, c'est un acteur qui est majeur du climat parce que il est mal connu du fait de son éloignement. Il absorbe évidemment beaucoup plus de CO2 que les autres océans parce qu'il est plus froid. Donc le CO2 va se dissoudre beaucoup plus. Et on a besoin d'en savoir plus. Alors Jean-Louis Etienne, ben, il fait fabriquer le Polarpod. C'est un peu un satellite, si vous voulez, autour de l'Antarctique. Mais à part que c'est un gros bouchon qui va être dans l'eau. Et donc, eh bien, il va être dessus. Ça va être une expédition dont on va entendre parler. Mais là, tranquillement, c'est là qu'il réfléchit à tout cela. Nous retournons du côté de Vielmur, du côté de Serviès, dans le département du Tarn. Et je vois quoi? Une petite cabane, peut-être, oui, avec Jean-Louis Etienne. Ah, là, on arrive sur une des cabanes que vous avez construites. Alors, c'est bien parce qu'il est toit végétalisé,
oui.
Bien sûr.
Oui. C'était donc voir sans être vu.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, elle est planquée.
Elle est très planquée. Bois, beaucoup de surface vitrée. Ouais. Et le toit végétalisé.
Bois local, hein.
Oui, qui vient de la montagne noire.
Alors, on voit au loin quand même ce paysage. Et cette montagne noire. On dit montagne noire peut-être parce que la couleur était sombre. Je sais qu'il y a différentes origines qui existent. Mais c'est aussi votre montagne tutélaire, hein. Vous avez fait l'alpinisme aussi là-bas, du côté du Carou, je crois.
Il y a le Carou pour l'escalade et la montagne noire, donc c'est très rond. Il y a le pic de Nord, qui n'a rien d'un pic, qui est très rond. Bon, c'est une espèce de ballon, de ballon du Tarn, comme les ballons d'Alsace, et qui culmine à 1200 mètres. Et là, j'ai joué la Napurna plusieurs fois.
Ah, oui, je comprends.
Parce qu'en hiver, on avait 4 chevaux, je me souviens, et mon père nous amenait au pic de Nord, avec mes deux sœurs, ma mère, et j'ai des souvenirs de marcher, il y avait du givre sur les arbres, et on marchait avec le vent sur le visage, je me jouais la Napurna.
C'était vos premières expéditions.
C'était mes premières expéditions. J'ai cultivé, enfin, sans le savoir, transcendé la sensation du vent sur le visage. Je le fais à Paris, je m'y amuse, je vais me balader, c'est pas loin de chez moi, il y a l'île aux Cygnes, et il y a souvent du vent, et je me joue une expé, quoi.
Oui.
Je me joue ailleurs, et ça me lave. Ça me lave, ça me fait du bien.
Jean-Louis Etienne, aujourd'hui, quand vous prenez, vous, le pouls de la planète, et Dieu sait si vous l'avez pris, parce que lorsque vous êtes retrouvé, par exemple, en Antarctique, avec votre filet, bah, vous récoltiez malheureusement des pesticides qui n'étaient pas une production locale, mais qui tournaient autour de la Terre. Mais aujourd'hui, où en est-on? Les gens ferment un peu les écoutilles. On leur parle d'environnement, oui, ils ont envie de faire, mais ils veulent pas de catastrophisme non plus. Ils pensent à l'emploi d'abord, ils pensent à leurs gamins. Et pourtant, on n'a qu'une seule terre, on n'échappe pas des lois physiques.
Aujourd'hui, l'information circule partout dans le monde. On sait très bien que le réchauffement climatique est une réalité. De quoi parlent les gens quand ils se rendent compte, quand ils vont acheter la baguette de pain le matin?
La météo.
Et attends, salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? La santé et la météo, les deux mamelles de la conversation. Donc quand on parle de réchauffement climatique, le gars il dit, attends, ben, si c'est chaud, il dit, peut-être qu'ils ont raison, s'il fait très froid, il dit, il nous raconte les caravistes.
Ouais,
donc c'est pas une valeur populaire. Le climat, c'est une... machine climatique, c'est planétaire. Et ce réchauffement, c'est une mesure scientifique. Un degré, même pas un degré en un siècle, ce n'est pas perceptible. Il faut faire confiance aux scientifiques. Et les choses sont simples. On a installé un double vitrage au gaz carbonique. Et donc automatiquement ça se réchauffe, ça retient davantage la chaleur parce qu'il y a ce double vitrage. On a renforcé la couche de CO2 naturel par une autre couche qui est la nôtre. On est sous une serre aujourd'hui qui retient la chaleur et ça se réchauffe petit à petit. Ça c'est une réalité. C'est planétaire aujourd'hui, on n'a qu'à voir le succès de la conférence de Paris. Les 195 pics étaient là et ils étaient surtout sur la photo. Ça veut dire qu'ils signaient par leur présence la reconnaissance que l'homme est devenu un acteur du changement climatique. J'ai habité en Californie. Je vois comme le phénomène est enclenché, les économies d'énergie, la recherche des énergies du futur, parce que, en plus, les Américains, ils ont un sens de l'économie, c'est-à-dire que tout de suite, où est-ce qu'on peut faire du business avec? Mais ça ne marchera que s'il y a un support économique, quoi. Hein. C'est pas dans la privation, c'est dans la construction d'autres choses qui seront des nouveaux process beaucoup plus vertueux.
Et aussi dans la manière de réinterroger le progrès, c'est-à-dire de réinterroger nos propres consommations. Qu'est-ce qui doit croître, qu'est-ce qui doit décroître?
Le changement à l'échelle planétaire, ça va être extrêmement lent. Donc, il y a un côté désespérant. Hein, on dit, qu'est-ce que je peux faire?
Et en même temps, pardonnez-moi, il y a quand même une accélération aujourd'hui des phénomènes. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des seuils qui sont en train d'être franchis. Quoi. Il y a des écosystèmes qui ne réagissent plus aussi.
Oui. Et donc, je dis tout le temps à ceux qui nous écoutent, soyez efficaces sur votre zone d'influence. On a une zone d'influence. Essayons de l'élargir, elle est personnelle déjà. Attendez, ceux qui nous écoutent, là, est-ce que vous êtes capables de changer vos habitudes, hein? C'est vachement compliqué. Et en fait, c'est tellement facile, quoi. Hein? Donc, changer à l'échelle d'une nation, de la famille déjà, d'une nation et du monde. Donc, les choses vont prendre du temps.
Il faut aussi des incitations quand même politiques.
Absolument.
Il faut quand même être incité quand même par rapport.
Il faut être incité. Et oui. Et donc là,
la machine globale n'incite quand même relativement peu, quoi. Donc.
Mais non, parce que la machine globale, en fait, elle est menée par une poignée.
Ah oui.
Et qui sont soutenues par des lobbies très puissants. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec des gens qui font du fromage de chèvre et qui ont changé leurs installations il y a une quinzaine d'années pour des raisons de normes sécuritaires. Donc ils ont tout mis en inox, machin et tout. Il y a des nouvelles normes qui passent.
Ouais,
et il me dit, je ne peux plus.
Je ne peux plus suivre.
Je ne peux plus suivre. Alors que c'est tout à fait correct ce qu'il a, etc. Ouais. Donc l'interrogation, c'était quelle est la puissance d'un lobby? Qu'est-ce qu'on va inventer comme règle pour l'inciter à changer son congélateur, son truc comme ça, alors que celui-là est très bien? Et donc, on se rend compte que la machine économique, elle s'auto-alimente dans la recherche du profit permanent au profit de quelques-uns. La finance est aveugle. Elle est faite par nos meilleurs mathématiciens qui trouvent des formules pour baiser l'autre dans la demi-seconde, même dans la millième de seconde. Ouais. La finance, elle est avide. C'est un vrai problème. Dans un pays comme le nôtre, au niveau individuel, il y a des choses qui se passent dans le bon sens. Au niveau des communes, les maires aujourd'hui,
les collectivités
ils sont obligés, parce que la population le demande, de prendre des mesures dans le bon sens. Même les industriels, parce qu'ils se rendent compte qu'en investissant sur des nouveaux process énergétiques, finalement, ils amortissent très très vite. Ouais. Donc il y a des choses qui se passent. L'image que j'ai trouvée pour réfléchir à est-ce qu'on est écologiquement vertueux ou pas, ou dans le bon sens, essayons de retrouver le fonctionnement de l'écosystème Terre avant que nous arrivions, je dis nous les hommes. C'est que, comme tous les équilibres, ça repose sur trois choses. Le trépied, c'est solide. Il y a la production primaire qui est la nature, la végétation. Grâce au soleil, ça c'est le miracle des plantes quand même. Hein. Miracle des plantes.
La photosynthèse. Et tout se recycle.
Et donc en rigolant, je dis tout le temps, à la place des poils, si on avait de l'herbe,
ah oui.
Ça produit du glucose. On serait alimenté un peu. Hein, on bénéficierait de cette... Bon, on n'est pas dans la photosynthèse. Dans la photosynthèse, c'est ce qui produit, c'est la base de tout. Le ver, l'herbe, la plante, c'est le point de départ de l'alimentation à la fois sur terre et en mer. Un, production primaire. Deuxièmement, les consommateurs. Dans la nature, il y avait proie-prédateur, ça s'équilibrait, on se connaissait. C'était relativement stable, même si l'évolution est très lente. Et troisième pilier du phénomène, les recycleurs. Production primaire, consommateur, recycleur. Et ça, ça a marché sur un trépied. Arrive l'homme qui a une puissance colossale. Il va commencer à attaquer la production primaire en changeant la déforestation, etc. Toutes les choses qui détruisent la nature. Ensuite, deuxième pied, consommateur. Là, on n'est pas bon. Parce qu'on est des consommateurs sauvages.
Oui, franchement, on peut mieux faire.
On n'est pas. Donc, essayez de s'éduquer en tant que consommateur. Ne pas acheter des cerises ou des fraises en hiver, je donne un exemple au hasard. Mais enfin, c'est ça, être un bon consommateur, regarder un peu sur l'étiquette, qu'est-ce qu'il y a. Et le troisième trépied, là, on n'est pas bon non plus, c'est les recycleurs. On a tout foutu dehors, on a jeté dans l'océan pensant qu'il était immense. Tout ce qu'on n'avait pas besoin aujourd'hui, l'océan est saturé de notre irrespect. Et l'atmosphère, pareil, on a l'impression que c'était immense. Mais non, ça sature de notre CO2. Recyclons, parce qu'en fait, tout ce qu'on a mis dans le circuit, en fait, peut revenir. Et là, on est dans le circuit vertueux. Moi, j'appelle ça l'écologie circulaire. Parce qu'en fait, production primaire, consommateur, recycleur, c'est ça qu'il faut. Il faut rester au plus près et ne pas satelliser des choses sur lesquelles on ne maîtrise plus. On a inventé des produits qu'on ne sait plus recycler. Et donc, ils deviennent très très vite c'est une engeance dans la nature, quoi.
les cigales s'en donnent à cœur et papate de joie. Alors si on se garde une belle image du Tarn, là ça y est, on est sur votre promontoire avec la montagne noire en face.
Il y a toutes les définitions, c'est un département agricole, c'est un bâtiment, c'est boisé. J'ai la chance ici d'être sur une terre où les agriculteurs ont conservé, les champs sont séparés par des haies, par des bois, ouais, ouais. Et ce qui maintient quand même une biodiversité. Ouais, ouais. Alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus, ils ont rasé. Et je me souviens très bien, je venais avec mon grand-père tous les ans à la Toussaint. On venait au cimetière familial qui est perché à la colline, la ouais. Cuque, là. Mon grand-père, sur le mur du cimetière qui était bas, on regardait de l'autre côté, là-bas, qui est Vercasse, qui est beaucoup plus agricole. Ça s'appelait le remembrement. Mmh. C'est-à-dire, ils ont foutu en l'air toutes les haies. On faisait des grands champs pour que ce soit plus efficace. Mmh. Et je me souviens qu'il était effondré par ça. Et c'était un homme de la campagne. Et il savait très bien qu'en détruisant ces espacements entre les champs, les haies, on donnait aucune chance à la nature de survivre. On a enlevé là où il faisait les nids, là où il pouvait traverser à découvert un champ, sachant que, hop, pas très loin, il y avait un endroit où on pouvait se planquer. Mmh. Et ça a été dramatique. Et donc j'ai la chance d'avoir en face de moi des espacements qui sont conservés, bien sûr, pour l'agriculture, et puis ces haies ou ces bois. Et puis c'est tellement plus apaisant de voir ces espaces-là que ces immenses champs, quoi.
Et alors au fond, on a la vallée de la Goutte, hein, oui. Voilà, donc qui vient arroser. Entre Castres et
symbole du futur.
Et symbole du futur, vos éoliennes.
Les éoliennes qui tournent. Ouais. J'appréhendais au départ, ouais. Parce qu'elles sont à 800 mètres d'ici, on entendait de tout. Et en fait, je me suis dit, il faut être cohérent. Soit il faut lutter contre le réchauffement climatique, trouver d'autres énergies. Et si un mec comme moi, je me disais à moi-même, hein, ouais. Commence à rechigner,
ça
ne va pas. Ouais. Soyons cohérents. À part la géothermie, l'énergie qu'on a dans le sous-sol, pratiquement tout vient du soleil. Le vent vient du soleil, les différences de température entre deux trucs. Le soleil, bien sûr, solaire thermique, solaire photovoltaïque. La biomasse, de la photosynthèse, tout est pratiquement soleil. Même les usines marémotrices, si on regarde, ou les hydroliennes, c'est-à-dire c'est celles qui sont sous l'eau, qui tournent sous l'eau, c'est des courants de marée, c'est la position du soleil par rapport à la Lune. C'est différent, mais le soleil est pour quelque chose, quoi. Hein. Donc si on regarde là, cette production, elle est énorme en termes d'énergie. Elle dépasse largement tout ce qu'on peut imaginer. Le problème, c'est bien sûr, il y a l'intermittence. En même temps, c'est la faiblesse de la densité. On court après le facteur temps. Qu'est-ce qui fait la différence entre la densité d'une énergie renouvelable actuelle, celle qui se produit dans l'instant, et celle qui nous est offerte par les fossiles? C'est 250 millions d'années de transformation de la matière organique, végétale, par la pression sous la terre et la température. Ça a donné du pétrole, du charbon ou du gaz. Ouais. Donc là, on court après le facteur temps, c'est-à-dire comment récupérer en direct cette capacité solaire de toutes ses formes, vent, je sais pas, les barrages, même les barrages hydroélectriques, et l'évaporation due au soleil, la pluie qui remplit le barrage, etc. Donc comment récupérer ça? Donc ça veut dire qu'il y a une bien plus faible densité, il faudrait multiplier les récepteurs. Donc multiplier les éoliennes partout, des photovoltaïques, des panneaux solaires thermiques, photovoltaïques, etc. Et il faudrait aussi être capable de stocker cette électricité qui est produite par ces énergies-là. On pourra, dans un futur assez proche, que les énergies renouvelables pourront satisfaire nos besoins domestiques, même pour le transport avec sa voiture électrique, sur des distances que l'on peut imaginer assez... Mais à une condition, c'est que la population soit super éduquée à la préciosité de l'énergie.
C'est ça, devenir sobre. On parle de...
oui. Mais oui, parce que c'est tellement facile l'accès à l'énergie. Oui. On ne sait pas, on n'en veut à personne, mais vous branchez une plaque électrique, c'est tout de suite 2500 watts.
Alors c'est très intéressant avec Jean-Louis Etienne parce qu'il est aussi adepte d'une écologie tout à fait pragmatique, donc appuyée sur la science. Sur la sociologie et la psychologie, parce que voilà, beaucoup d'entre vous dites « Mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas aussi vite ?» etc. Oui, mais l'acceptation, elle est pas toujours très très simple. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce discours-là. Et puis, tenez, comme quand on a des bons disques, hein, ben on va pas s'en priver. Voilà, toujours sur France Inter, dans C'est haut de mon amour. Avec Jean-Louis Etienne, bien sûr.
Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used.
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Of who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
C'était Coldplay sur France Inter, Viva la Vida, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Eh bien, il va falloir les assommer.
Ouais.
Et les tuer, bien oui. entendu. Aïe, voilà. Aïe. Alors, pour les tuer, viens là, ma biche, viens là, ma biche, viens là. Là, il ne faut pas être un grain de tenue, hein.
Eh oui.
CO2, mon amour, Denis Chessoux.
Tu ne reviendras plus.
Sur France Inter.
Ah bah oui, non, ça c'est sûr que si vous êtes en train de préparer actuellement votre réveillon, tranquillement, si vous êtes vegan, vous n'êtes pas tellement concerné, il faut bien le dire. Voilà, bah évidemment que c'était Maïté. Quelqu'un qui était un peu plus vieux qu'elle quand même et qui a beaucoup inspiré Jean-Louis Etienne, c'était Jean-Henri Fabre. Jean-Henri Fabre, c'est cet entomologiste, donc était cet homme assez formidable, on va dire le Virgile des insectes, l'Homère de la salade, et qui était un pédagogue absolument hors pair et qui était aussi un raconteur du vivant. Donc c'était un des maîtres de Jean-Louis Etienne et qui lui a permis aussi donc de raconter avec précision bon nombre d'histoires. Alors, notre homme, en fait, c'était aussi un homme des énergies renouvelables, mais qui ne s'interdit absolument rien, sauf les gaz, bien sûr, à effet de serre.
Il y a quelque chose qui me turlupine, c'est un peu indécent de le dire à votre émission, Denis, mais le nucléaire, c'est une vraie question. Et je ne parle pas des centrales que l'on a aujourd'hui, même de l'EPR, qui, ce sont des conceptions qui ont 50-60 ans.
C'est ça. Ma femme, c'est ce que vous dites, c'est que sur le domaine du nucléaire, on peut aussi évoluer encore.
Ah, donc, oui, en faisant mais ce qui est magique, c'est E égale MC2. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse de la matière. C, c'est la vitesse de la lumière. Quand dans une fusion qu'il y a dans le Soleil, la fusion des noyaux d'hydrogène, au sens large, fusionne dans le Soleil à cette très haute température, la quantité d'énergie que l'on reçoit ici à travers le rayonnement est proportionnel au carré de la vitesse de la lumière. C'est monstrueux. Ouais. On voit aujourd'hui qu'il y a de la recherche dans tous les pays du monde, tous les pays avancés, recherche sur comment exploiter cette E égale MC2 et que ça devienne renouvelable et propre, c'est-à-dire pas de production de déchets et que ce ne soit pas des monstres dangereux. Il y a des solutions. Il y a ITER, par exemple. C'est pas idiot de se dire, ma foi, mais si on recrée un soleil sur Terre, on aurait accès à cette énergie. C'est compliqué. On est entre la science fondamentale et la très haute technologie. On est dans un laboratoire aujourd'hui avec ITER, mais c'est intéressant, on part quand même de la production d'énergie mondiale.
Alors, évidemment, on va vous dire ça va coûter au bas mot 20 milliards aujourd'hui,
oui, mais
et il n'y aura pas un kilowattheure qui va sortir avant 50 ans, etc.
Oui.
Mais bon, mais c'est un pari, voilà, ça paraît scientifique.
Mais 20 milliards, c'est moins cher que les Jeux Olympiques de Sochi, par exemple, hein, en Russie.
Oui, j'ai pas
30 milliards.
30 milliards.
Oui.
Ah
oui,
d'accord. Tu ça que ça pour le dopage en plus.
Oui, c'est one shot, c'est un seul coup. Hein. Et donc, on parlera d'alimenter l'énergie planétaire, mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que cet investissement, il vaut le coup quand même? Parce que tout ce qu'il y a autour de cette approche technologique, bon, il y a le CERN dont on ne parle jamais, cet accélérateur de particules à Genève qui coûte très très cher. C'est d'une très haute technologie. On est dans la recherche de la matière. Moi, pour moi, ça relève pareil. J'imagine qu'un jour...
Oui, mais ça y est, le boson de Higgs. Hein,
oui, le boson de Higgs, ça progresse.
Ah, oui.
Et alors maintenant qu'ils ont trouvé le boson de Higgs, il y a d'autres choses. On explore la matière. Ouais. Et en fait, dans cette science fondamentale, la très haute technologie mise à ce service-là fait des progrès un peu partout dans notre vie courante. Quoi, hein. C'est de là qu'est né l'Internet, d'ailleurs. Le web a été né au CERN, parce qu'au CERN, ils avaient besoin d'échanger avec le monde entier les informations. Ouais. E égale MC2, c'est ça qui me fascine. Ouais. Et là, on parle de la création de l'univers, quoi. C'est retrouver cette énergie créatrice, quoi.
Jean-Louis, comment amener les gens à avoir de l'appétit pour à la fois le naturel, les énergies renouvelables, une meilleure santé, une manière de vivre plus apaisée en définitive.
Oui, c'est important le mot apaisé. Mais l'apaisement, c'est le travail en apaisement, c'est un travail déjà personnel. C'est évident que si on a sa chaîne d'information ouverte toute la journée à la maison,
on se flingue.
On se flingue. Ça nous met dans un état d'impuissance et d'anxiété formidable. À un moment donné, il faut savoir se mettre en jachère des ondes. Ouais. Revenons à Jaurès. Le discours qu'il a fait
à la jeunesse.
Sur la jeunesse en 1903 est extraordinaire. Et pour sortir une phrase de ce qu'il a dit, c'est « aller à l'idéal tout en comprenant le réel ». En fait, tout est dit. C'est-à-dire qu'on doit être tous porteurs d'un idéal qu'il faut marier dans la transition avec le réel, qui nous insupporte pour plein de raisons. Et donc ne pas perdre de vue cet idéal, en fait, d'un monde meilleur. Et chacun en est l'acteur, déjà. Et aller à l'idéal tout en comprenant le réel.
Je trouve que c'est pas mal, Jean-Louis, pour se quitter tranquillement, vous voyez. Vous nous rappelez le titre de l'ouvrage donc aux éditions du Passeur.
Ça s'appelle « Inventer sa vie ». Inventer sa vie parce qu'en fait, l'expérience aujourd'hui de mon âge, de ce parcours que j'ai eu sinueux, inventé de toutes pièces un peu, était fidèle à une envie de nature. Moi j'aimais vivre dehors, je suis né à la nature, dans la nature j'aimais ça. J'en ai fait un peu mon métier aujourd'hui, à la fois de la fréquenter et la défendre. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on a des potentiels insoupçonnés de soi. Et en fait, la liberté que l'on voudrait, elle ne se gagne pas sur les autres, elle se gagne sur soi. C'est ce potentiel-là qui m'intéresse, que chacun mette à l'œuvre, mais ne pas toujours regarder la faute ailleurs, hein, commencer à se dire, qu'est-ce qui se passe à moi, qu'est-ce que je peux faire, honnêtement. Avoir le courage de suivre ces voies de création qui sont souvent qui vous amènent à flatter votre liberté, à la cultiver votre liberté. Mais c'est un chantier énorme, c'est un travail sur soi qui est énorme. Mais les récompenses sont là quand on a réalisé des choses qu'on avait envie de faire au plus profond de soi. On s'est réalisé. Donc, inventer sa vie, c'est ce que j'ai trouvé comme titre de mon ouvrage.
Merci, cher Jean-Louis Etienne, et puis à bientôt.
À bientôt, Denis.
Aller à l'idéal tout en comprenant le réel, donc avec Jean-Louis Etienne, Vielmur d'un côté, Serviès de l'autre, la vallée de la Goutte et donc la ferme de Jaurès, où il est né à quelques kilomètres. En fait, c'est pas très très loin, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres. Si vous souhaitez d'ailleurs aussi voir Jean-Louis Etienne et voir son lieu, eh ben vous avez cette vidéo qui est sur le site de CO2 Mon Amour, donc ne vous gênez pas, franceinter.fr. Ah, notre dernière séquence, quand la nature inspire les écrivains.
Thomas Sawyer, va te mettre au piquet dans le fond de la classe. Tu resteras jusqu'à midi.
Oh, viens vite, j'ai besoin de toi, amène-toi.
Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe?
J'ai repéré un gros cochon sauvage.
Un cochon sauvage?
Ouais, il s'est peut-être enfui il y a quelque temps d'une ferme de la région, mais aujourd'hui, il appartient à personne. Ou plutôt, il est à celui qui l'attrape. Si on peut le capturer vivant, on en tirera un bon prix.
Aux éditions Plume de Carotte, quand la nature inspire les écrivains. Là, on a entendu un extrait de Tom Sawyer. Bonjour Elisabeth Combre.
Bonjour Denis.
On va faire un petit tour aux États-Unis quand même, avec un homme qui s'appelle Mark Twain. Et là, on va rencontrer l'enfant du Mississippi.
Mark Twain, ça a d'abord été un peu un sale gosse, hein, prêt à faire tout ce qui lui était interdit. En particulier dans la nature, qui lui était largement ouverte autour de chez lui.
C'est une très bonne formation.
Oui, ça a donné de grands écrivains de nature. Et donc il vit sur la famille, alors sur ce qu'on appelle la frontière aux États-Unis, cette zone qui avance vers l'ouest, à mesure que les pionniers défrichent et s'installent dans la grande plaine vers l'ouest. Donc il a raconté ses fantastiques aventures, il les a romancées dans Tom Sawyer, effectivement, ah oui. Qu'on connaît beaucoup en France. qu'on connaît un petit peu moins le reste de l'œuvre de Mark Twain. Ben notamment, avant Tom Sawyer, Mark Twain s'était fait connaître par ses textes humoristiques et satiriques, et puis par son récit de voyage sur un mode décalé, hein, sa ruée vers l'ouest, au Nevada et en Californie. Alors le livre est paru en France sous le titre « À la dure ». Alors on est dans les grandes plaines, hein, on est dans les chariots, avec les pionniers. Et alors Mark Twain, il a inventé quelque chose quand même, c'est un humour à l'américaine qu'il a transmis à des Tex Avery, à des Chuck Jones, hein, l'inventeur de Bip Bip et le Coyote.
Ah bah voilà, c'est ça. C'est... Quand on parle du Coyote, en fait, il a été totalement inspiré par Mark Twain.
Un extrait très court, mais on entend dans l'instant un bruit impétueux, une longue déchirure fend l'atmosphère et voilà que le chien se retrouve seul, abandonné au milieu d'une vaste solitude. Et le bruit impétueux, c'est le Coyote qui est parti à toute vitesse. On est exactement dans l'univers des dessins animés. Et donc, il y aura beaucoup de descendants. C'est une lignée d'humour américaine là qui démarre avec Mark Twain.
Et puis quand même, c'est un homme qui fait grimper les buffalos, les buffles aux arbres.
Ah oui, 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 il peut tout se passer chez Mark Twain. Un buffalo qui poursuit un malheureux pionnier à cheval et le pionnier n'a qu'une chose à faire, c'est de se réfugier dans le seul arbre dans toute cette grande plaine, et ben, au bout d'un moment, il voit grimper le buffle à l'arbre. Les autres lui demandent, évidemment, tu nous racontes n'importe quoi. Mais comment ça, n'importe quoi? Tu n'y étais pas. Donc c'est tout à l'avenant, comme ça. Et puis de l'humour, et puis du parler des hommes de l'Ouest. Hein. Mark Twain, il nous décrit un homme, des hommes et des femmes qui vivent à la dure, qui sont un peuple rude, hein, confronté à une nature immense. On est dans la période où les États-Unis, où cette Amérique du Nord découvre son Ouest. Les grands parcs viennent d'être
Yellowstone.
Enfin, commencent à être, voilà, Yellowstone, Yosemite, on a le Grand Canyon. Donc les monuments européens sont une chose, et les monuments américains sont ces grandes constructions géologiques, constructions de la Terre elle-même. On y fait des photos, on met en image, et Mark Twain a participé à faire tourner le regard de ses compatriotes vers cet Ouest. Et c'est toute l'identité américaine c'est une partie de l'identité américaine qui se construit là.
Il y a aussi quand même, Elisabeth, ce drame de l'écrivain américain qui à la fois rêve de nature inviolée, et en même temps il sait qu'il détruit la nature avec cette conquête. Et cette avancée des villes.
L'Américain dans la nature sauvage est un paradis perdu. C'était l'Américain des premiers temps. C'est une dimension très importante de la littérature américaine. Hein. Cet homme des bois, cet homme chasseur, mais chasseur d'une manière respectueuse des animaux. Hein. Même si on chasse, c'est pour un besoin limité. C'est cet homme des grands espaces, cet homme d'extérieur qui effectivement pleure un peu le paradis perdu qu'il a lui-même détruit.
Je vous renvoie donc à ce Mark Twain, Quand la nature inspire les écrivains, aux éditions Plume de Carotte. À bientôt, merci Elisabeth Combre.
Merci Denis.
C'est la fin de ce CO2 Mon Amour, ça ne vous a pas échappé, mais ça recommencera la semaine prochaine, autrement dit le 7 janvier. Et là, nous irons voir les loups, oui, avec Jean-Michel Bertrand, que vous avez déjà entendu pendant 2-3 ans, je l'avais suivi dans les Hautes-Alpes, et donc il y a un film qui sort, donc qui s'appelle La Vallée aux loups, donc Jean-Michel Bertrand, la semaine prochaine dans cette émission. Merci à Élise Christophe, qui était aujourd'hui à la technique, à Lauren Bess, notre assistante, à Marion Lelay, qui a réalisé ce CO2 Mon Amour. Merci aussi, petit clin d'œil, à Xavier Pessugia pour le reportage de ce mois de septembre dernier, donc sur le département du Tarn. Et je vous souhaite évidemment un très beau passage de fin d'année, donc très belle année par anticipation. J'espère que tout va bien se passer pour vous, et donc rendez-vous l'année prochaine.